Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, bonsoir et merci d'avoir choisi la web radio à Ruevi Info, l'information comme si vous y étiez. C'est l'heure de votre émission Si on en parlait. Aujourd'hui, nous allons parler d'une icône du sport togolais, Lawson Kaka, plus connu affectueusement sous le nom de Faux Kaka. On sera ensemble avec lui pendant ces 50 à 55 minutes au cours desquelles vous apprendrez à mieux le connaître, à reconnaître ses exploits. C'est l'un des sportifs du siècle, hein, de notre pays. Très discret, vous verrez tout à l'heure. Merci à la partie technique, Miss Darlix, bienvenue à tous. Suite Moda pour commencer, et voilà, comme je vous l'annonçais, nous avons avec nous en studio Lawson Kaka. Lawson Kaka, bonsoir, merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Et est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, ceux qui ne vous connaissent pas encore?
Bonsoir Tony, moi c'est Kaka Lawson, je suis sportif togolais, professeur d'éducation physique et sportive de formation. J'ai enseigné pendant une vingtaine d'années au lycée Tocoin avant de prendre ma retraite à l'Institut national de la jeunesse et des sports.
Vous êtes une icône du sport togolais et modeste comme d'habitude. Vous n'avez rien dit, on va y revenir plus tard dans cette émission. Vous êtes surtout une légende du tennis de table. Et si mes souvenirs sont bons, vous avez commencé au centre communautaire d'Adjangbakome dans les années 66-67. Racontez-nous un peu.
Bon, effectivement, c'est au centre communautaire d'Adjangbakome que j'ai débuté mon apprentissage du tennis de table. J'étais avec des amis, un certain Clagbaop, on allait ensemble au tennis, oui, du côté de l'ancienne présidence. Et puis un joueur m'a dit, mais écoute Kaka, j'ai vu que des gens jouaient sur une table au centre communautaire. Et on y est allé. Oui. Mais là-bas, il y avait tout le gros tas du tennis de table.
Les ténors.
On ne pouvait pas accéder aux tables. Oui. Il va falloir rester et ramasser des balles pour les grands avant qu'on vous donne une miette de temps pour jouer. Alors, c'est là que j'ai commencé, mais les ténors avaient remarqué que peu de temps après, on commençait à émerger. Oui. Et puis, petit à petit, on est devenu les grands de la place.
Petit à petit, vous êtes devenu les grands de la place. Et il y a une anecdote, hein, dont je me souviens, vous m'en avez parlé. Il y a eu cette histoire de jouer avec Yaka Pamal, paix à son âme. Donc, il fait partie de ces personnes, si l'on peut dire, hein, qui ont été à la base de cette éclosion dans le tennis de table. Comment cela s'est-il passé avec lui?
Bon, on a appris également que l'équipe nationale du Togo s'entraînait au Foyer Pidouze. Oui. Donc, je me suis pointé un après-midi. Alors, j'ai regardé les gens jouer. Je me suis dit, mais ils jouent très bien, mais je pouvais aussi jouer. Oui. Donc, je me suis spontanément approché de monsieur Pamal et je lui ai demandé si je pouvais jouer avec eux. Il m'a dit, mais toi, tu viens d'où? Est-ce que tu sais jouer? Je dis, mais je joue au centre communautaire. Bon, reste là, on va voir. Je suis resté, comme toujours, à leur ramasser les balles, Puis à la fin de la séance, il m'a donné une raquette et on a commencé à jouer. Et au fil et à mesure qu'on jouait, il s'écriait, ah, regardez-moi ce petit-là. Mais regardez, il joue très bien. C'est comme ça que je suis rentré en équipe nationale.
Et depuis, vous avez fait votre chemin. et vous êtes devenu un peu plus tard le meilleur pongiste togolais. Là où aussi, on aimerait bien connaître votre parcours jusque de l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui. Surtout alors, en équipe nationale.
Oui, comme je disais tantôt, c'est l'approche de, ou bien la rencontre avec pas mal qui m'a donné l'occasion de rentrer en contact avec les grands pongistes du moment. Alors, pas mal m'avait pris sous sa coupe et on avait commencé à s'entraîner. Alors, c'était en 1968. Et déjà en 1969, le Togo devait faire un match amical contre le Bénin. Et pas mal m'a mis dans la délégation. Il m'a mis dans la délégation. Et à Cotonou, pendant qu'on jouait à l'UNAFRICA, moi, j'étais allé pour le tennis de table, mais je voyais les jeunes jouer au football devant la salle. Au lieu de rentrer dans la salle, je suis resté avec les jeunes, jouer au football, jusqu'à ce que pas mal viennent me donner un coup de poing sur la tête et me ramener à la salle. Et puis après, on m'a demandé de faire un match d'amical avec un jeune béninois que j'avais d'ailleurs battu en ce moment-là. Oui. Et puis après, en 1969, il y avait les championnats d'Afrique de l'Ouest à Accra. Et pas mal m'a encore amené dans la délégation. Mais comme il n'y avait pas d'épreuve junior en ce moment-là, j'ai automatiquement débuté avec les seniors. Et puis, il y avait l'Open du... le championnat d'Afrique de l'Ouest au Nigeria en 1970. Et c'est là où j'ai vraiment émergé en battant certains ténors du tennis de table ouest-africain. Et puis après, en 1971, il y avait les Jeux afro-asiatiques en Chine. En ce moment-là, j'étais devenu champion du Togo. Automatiquement, je faisais partie de la délégation qui était allée en Chine. Et c'est là où j'ai été le premier Africain à avoir battu un Chinois. Alors, l'anecdote, c'est que à la fin du match contre la Chine, il y a d'abord le président de la Fédération du Soudan, en ce moment-là, qui m'a porté sur son épaule et a fait le tour de toute la salle. Il nous disait que c'était pas une victoire du Togo ni de l'Afrique, mais que c'est une victoire de tout le tiers-monde. C'est ce qu'il laissait présager
tous ceux qui étaient là.
Et ensuite, à la fin de la rencontre, plein de journalistes sportifs m'avaient approché et me disaient qu'ils avaient remarqué qu'à un certain moment, j'ai commencé par changer de tactique de jeu. Moi, c'était l'insouciance en ce moment. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une tactique de jeu, une stratégie de jeu. Moi, je jouais avec mon insouciance.
Donc, et avec votre instinct.
Avec mon instinct de... Il faut dire que j'avais un instinct vraiment de vainqueur en ce moment-là.
Tout à fait. Alors, vous êtes professeur de PS de formation. Vous comptez plus de 200 sélections en équipe nationale du Togo. Plusieurs fois médaillé aux différents Jeux africains et championnats d'Afrique. Aujourd'hui, DTN de la Fédération et expert formateur de la Fédération internationale de tennis de table. Quel parcours ! Et que ressentez-vous quand vous regardez ce palmarès ou quand vous lisez tout cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait autant au Togo ou bien même en Afrique? Je ne pense pas.
Ah, mais je pense que d'autres ont fait plus que moi. Et mon seul regret, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été champion d'Afrique.
Oui.
Alors, c'est ce qui manquait pour qu'on dise que je suis le plus grand ou le plus fort.
De votre génération.
C'est ce qui me... J'ai réussi à être vice-champion d'Afrique par équipe à la première Coupe d'Afrique des clubs champions au Caire.
Oui.
On a été battu en finale par l'Arabe Contractor d'Égypte. Donc, j'étais vice-champion d'Afrique. Mon seul regret, comme je l'ai dit, c'est de ne pas avoir été champion d'Afrique. Mais... au regard de tout cela, tout ce palmarès-là, c'est un sentiment de joie, de fierté qui m'anime. Sentiment de fierté et sentiment un peu mitigé de déception. Je l'ai dit tantôt, si j'avais été champion d'Afrique, ce serait vraiment le Graal. Vous voyez? Alors, mon parcours a été possible grâce à certains joueurs d'antan, comme pas mal. et Francis d'Almeida, plus connu sous le nom
de Plano. On va en parler tout à l'heure.
De Sipili, Lassé Sipili, qui était considéré comme mon mentor en sport, et de Tameklu Georges.
Oui, Georges Tameklu.
Ainsi qu'un certain Folie André, qu'on appelait Blackson dans le temps.
D'accord.
Voilà, ceux-là, avec Fodona, et ceux-là m'avaient vraiment, vraiment poussé à aller de l'avant. Ils se sacrifiaient pour me faire voyager. Ils faisaient tout pour me faire voyager. Parce qu'ils sentaient que j'avais un potentiel qui restait à développer.
Quels ont été les moments les plus mémorables de votre carrière de joueur de tennis de table?
Alors, le premier moment, je l'ai dit tantôt, c'est la victoire sur le champion de Chine en 1971. Et puis après, il y avait à Accra, au championnat africain à Accra, une victoire sur le champion d'Afrique ghanéen. Il s'appelait Emmanuel Coué en ce moment-là. Il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains et de tout le Commonwealth. Donc j'ai réussi à le battre. Mais ce n'était pas facile parce que moi j'étais très jeune, lui était déjà vieillissant, mais j'ai constaté qu'il avait le trac, il tremblait même parce que...
il sentait que son heure était venue, il ne voulait pas.
Donc ce fut un très grand moment pour moi et les gens me cataloguaient avant comme celui qui battait les champions d'Afrique. Après j'ai battu un autre champion d'Afrique égyptien qui s'appelait Galal Ez. J'ai battu tous ces champions africains, nigériens, égyptiens, tunisiens sans avoir jamais été champion d'Afrique. C'est ça mon seul regret, comme je l'ai dit.
Le grand regret de cette carrière-là. On a commencé avec Suite Moda, un morceau que vous avez choisi. Je pense qu'il y a une raison à cela, Suite Moda.
Oui, c'est vraiment pour rendre hommage à mes parents. Et mon papa est décédé très tôt et la maman s'est saignée pour nos études et pour m'encourager dans le sport. C'est pour cette raison que j'ai voulu commencer avec ce morceau.
Ce morceau Suite Moda. On a parlé un peu de votre carrière de joueur. On va faire une nouvelle pause musicale pour parler tout juste après de votre carrière d'entraîneur. Guantanamera, une deuxième chanson choisie par vous, Lawson Kaka, y a-t-il une explication ou bien vous êtes un salsero?
Oui, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup la salsa, c'est pourquoi.
Ok, vous êtes aujourd'hui dans l'encadrement et instructeur. Comment s'est effectuée cette transition de joueur à entraîneur et puis d'entraîneur à DTN et puis à instructeur?
Alors, je voudrais d'abord revenir sur ma carrière.
Oui.
Et tout à l'heure, on parlait de ce qui a fait de moi un grand joueur.
Oui.
Je voulais souligner l'impact d'un homme. Oui. Il est nigérian. Il s'appelle Dr. Ifunkoya. Alors, c'était un visionnaire qui voulait annihiler la suprématie de l'Égypte en tennis de table au profit de notre région ouest-africaine. Et il a mis le paquet pour nous organiser des stages fréquents au Nigeria. Des tournois, plein de tournois fréquents au Nigeria. On allait au Nigeria tous les ans, 3 à 4, 5 fois par an. Juste pour des matchs amicaux, Il y a de l'Open du Nigeria, il y a l'Open Bonvita, les championnats ouest-africains. Le Nigeria prenait tout en charge, okay. tout en compte à ce moment-là. Oui. Donc c'était vraiment un homme. Et effectivement, l'Afrique de l'Ouest a réussi avec le Togo et le Nigeria à prendre en ce moment-là le dessus sur l'Égypte et les pays du Maghreb.
C'était un véritable mécène tennis
tout à fait.
De table. D'accord, oui. Maintenant,
alors, pour revenir à ma carrière, il faut dire que très tôt, étant très jeune, je ne savais même pas qu'il existait une institution où on pouvait former des encadreurs sportifs.
Ok.
Je m'imaginais professeur de sport, entraîneur, sans savoir qu'il y a une école.
Une école.
Et c'est tout naturellement lorsque je sais qu'il existe au Togo ou un peu partout dans le monde, une école pour former les encadreurs, les professeurs. Je me suis dirigé directement là. Mais alors, donc, je disais tantôt qu'il y avait pas mal et certains et grands et pongistes d'antan qui m'avaient poussé, avaient tout fait pour que je sois devenu ce que je suis aujourd'hui. Alors, il y a aussi et l'apport de ma famille. Quand j'allais jouer, j'avais mes trois petits frères qui me suivaient tout le temps, qui m'encourageaient. Et au fur et à mesure qu'ils m'encourageaient, deux d'entre eux avaient commencé par jouer. Et l'anecdote voudrait qu'une fois j'étais champion senior, un autre est champion cadet, l'autre est champion minime du Togo. Donc, c'était ça. Il y avait l'encouragement. Nini Messan et Papa Niki qui était arbitre international.
Tout à fait.
Le quatrième.
Oui.
Alors, et la deuxième chose, c'est que je suis issu d'une famille de très grands sportifs. Alors, mon papa était footballeur et tennisman. Ses grands frères, Laté Pécuy et Laté Bombardier, Messanvi, étaient de très grands joueurs de l'étoile filante de Lomé.
De Lomé, surtout Bombardier.
Surtout Bombardier. Il y avait mon grand frère, Lawson Eza, on est de même père,
oui.
qui a été même capitaine des Éperviers du Togo.
Oui.
Et son petit frère Ataboué, qui n'était pas mal au basket aussi.
Oui.
Et vous voyez, donc il y a cet ADN de sportif qui était à moi.
Tout à fait.
Quand je voyais mes oncles, mon oncle Messanvi Lawson était même champion d'Afrique de l'Est de tennis, en double, avec un certain Kpaedo Michel.
Oui, Michel Kpaedo, oui, c'est vrai.
Donc, il y a cet ADN-là qui était à moi, qui me poussait à donner le meilleur de moi-même.
Donc, c'était dans l'ADN. Dans l'ADN, c'est naturellement.
C'était naturellement, puisque mes frères aussi ont suivi.
Mon
grand frère aussi était un grand footballeur.
Voilà, et tout naturellement, vous avez senti le besoin de transmettre votre connaissance, votre expérience, hein, ce qui a fait que vous n'avez jamais été attiré par des postes de président de fédération ou de manager.
Je suis
resté dans la technique.
Dans la technicien de nature. Oui, les gens, beaucoup de gens me reprochent de ne pas vouloir prendre la fédération. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse maintenant, surtout, c'est la formation des jeunes. Nous avons un tennis de table en déclin et mon souci maintenant, c'est de relever le niveau.
Relever le niveau, on va parler en dernière partie hein, des perspectives d'avenir, de vos objectifs. Revenons au DTN. En quoi votre expérience en tant qu'ancien joueur vous a-t-elle servi ou bien vous sert-elle pour vraiment accomplir cette mission et bien accomplir vos tâches de DTN?
Alors, la première chose et qui m'a servi en tant qu'entraîneur d'abord, en tant que DTN, c'est mon statut de professeur d'éducation physique et sportive. Alors, pourquoi? Parce que dans notre formation, nous avons un vaste programme de travail pédagogique, de travail psychologique et de travail physiologique.
Okay.
Donc, quand on est entraîneur moderne actuellement, il faut avoir toutes ces notions de physiologie, de pédagogie et de psychologie. Donc, en tant que professeur d'éducation physique et sportive, j'ai des dispositions à être entraîneur et à être DTN. Et de par mon expérience de près de 40 ans de pratique.
De pratique, oui.
Et je crois que je suis bien indiqué à être DTN.
Dites-nous, Lawson Kaka, comment arrivez-vous à détecter des talents en tant que DTN? Quel est le processus? Il faut avoir le flair? Qu'est-ce qu'il faut? Comment sentez-vous que ce jeune-là, il a un fort potentiel, c'est un talent?
Alors, je dirais que dans la détection, il y a deux formes de détection. Il y a ce qu'on appelle la détection sauvage. Vous voyez, ça a été fait par nos anciens du basket et de volley. L'opération grande taille qui a été faite là, c'est ce qu'on appelle la détection sauvage. Vous voyez quelqu'un de très grand dans la rue, vous vous dites, celui-là, il peut faire l'affaire. Okay. Il y a la détection. Dans la détection sauvage, vous allez dans les écoles, vous voyez des jeunes jouer au football dans la rue, vous détectez des gens.
Oui.
Et puis, il y a la détection organisée. Vous allez dans une école, par exemple, vous demandez au professeur de sport de sortir les élèves, vous leur faites découvrir l'activité tennis de table, par exemple.
Et ça marche ici?
Alors, moi, je peux dire que ça marche.
Oui.
Parce qu'en 2010, nous avions eu une mission de coopération chinoise de tennis de table. Deux entraîneurs chinois étaient venus. Et c'est le général Nabédé qui était président du comité olympique en ce moment.
Okay.
Et il a demandé, quand les Chinois étaient venus, c'était pour encadrer l'élite. Mais le général Nabédé a dit non. Nous avons déjà une expérience dans l'élite. Il faut nous montrer comment les Chinois font la détection. Alors, la fédération m'a confié le dossier en tant que DTN. Je suis allé au CEG Tokoin Centre en collaboration avec le proviseur et les professeurs d'éducation physique. On a d'abord préalablement fait une opération découverte du tennis de table. On a amené des tables dans l'enceinte, dans la cour du CEG, et on a laissé les enfants s'amuser avec des petits jeux d'adresse, de petits sprints, d'agilité, de coordination. Et après, on a sélectionné 100 jeunes. On a sélectionné 100 jeunes et qu'on avait confié à un staff technique que je présidais et aux deux entraîneurs chinois.
D'accord.
Alors, au bout de 3 mois, les Chinois nous disaient que leur travail ne se faisait pas voir parce que les joueurs étaient trop nombreux. Ils ont voulu qu'on réduise le groupe à 40. Donc, on a réduit le groupe à 40. Mais moi, j'ai récupéré 20 autres en dehors
des 40 retenus.
Et que le staff technique encadrait quand les Chinois partaient.
Ok.
Alors, je peux dire que les 40 que les Chinois, plus les, ça faisait 60.
Ça faisait 60.
À un moment donné, ils disaient que les 60 c'était trop. Et de réduire à 40. Bon, bref. Alors, vous demandez tout à l'heure que est-ce que ça peut se faire au Togo? Ça s'est fait. Puisque les 5-6 meilleurs joueurs actuels du Togo sont issus de cette opération détection de 2010.
Voilà.
Le champion du Togo, Assou Boris, il était là. Mais Assou Boris n'était pas dans les 60 choisis par les Chinois.
Les Chinois.
Assou Boris, actuellement, il est parti, ça fait un mois, il est en France. Et un des meilleurs aussi de ce groupe, c'est Alassani Soudès, qui avait représenté le Togo aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Et il y a Akoussa Prince, qui fait partie de l'un des meilleurs actuellement.
Oui.
Tout cela et d'autres filles faisaient partie de ce groupe-là. Alors, je disais tantôt que mon souci maintenant, c'est de relever le niveau, surtout le niveau des dames.
Oui.
Parce que c'est très, très, très difficile d'entraîner les dames.
Mesdames.
Il y a l'opposition des parents, il y a la déperdition en cours de formation. Bon, il y a tout ça, c'est très difficile. Alors, moi, je voudrais... J'ai déjà fait un projet avec la fédération pour retourner faire un test de détection de talent similaire.
Tout à fait.
Il faut qu'on en arrive là.
On arrive là.
À défaut d'aller chercher 100 gosses, on peut trouver une vingtaine de gosses, faire une bonne détection de base, trouver une vingtaine et les faire travailler. Dans la détection organisée, il y a d'abord le repérage. Il faut repérer les joueurs. Après avoir repéré, il faut détecter. Il faut repérer les joueurs qui ont des dispositions pour faire le tennis, bref, les sports de raquette.
Oui.
Il faut l'habileté, il faut le réflexe, il faut le côté malin des joueurs. C'est ce qui va faire le, le bon joueur. Quand on dit le côté malin, ça parle déjà du mental.
Du mental, tout à
et
fait.
Et vous savez que maintenant, au haut niveau, entre deux joueurs de même niveau,
c'est le mental qui fait la différence.
Donc, il faut d'abord faire le repérage, ensuite faire la détection, ensuite les orienter vers un centre où il y a un entraîneur qualifié qui peut s'occuper d'eux.
D'accord.
Et nous avons la chance de nous entraîner dans une enceinte qui a 10 000 élèves par jour.
Oui.
Je rappelle que l'enceinte du lycée Tocoin, il y a un CEG.
Oui.
Il y a trois lycées. Lycée Tocoin Centre 1, Tocoin Centre 2, lycée scientifique.
Scientifique, oui.
Il y a une école primaire. Il y a une école maternelle.
Mm-hmm.
On a du vivier.
Oui.
On a du vivier.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
Oui.
Vous voyez ? Donc, il faut qu'on retourne refaire un autre travail de détection. Nos filles, nous avons quelques filles qui ont un niveau africain, mais après, c'est le néant.
C'est le désert.
C'est le désert.
C'est le désert. On va faire une nouvelle pause musicale et on va parler un peu des défis auxquels sont confrontés les joueurs de tennis de table togolais aujourd'hui. On fait la pause musicale. Avec Lawson Kaka, dans Si on en parlait, on parle de tennis de table et d'une icône togolaise. Alors Lawson Kaka, quels sont les défis les plus courants auxquels les joueurs de tennis de table togolais sont-ils confrontés aujourd'hui de votre point de vue?
Alors le défi le plus courant, c'est le manque de moyens pour encadrer ces jeunes-là.
Mmh. Les Donc, infrastructures
ça, Les infrastructures, j'allais en venir, les infrastructures. Et on a été très heureux la dernière fois de pouvoir organiser pour la première fois dans l'histoire du Togo une compétition d'envergure internationale à Lomé. Oui. Et grâce au CETEF, où nous sommes allés nous-mêmes détecter une salle.
Tout à fait.
Qu'on a transformée en hall des sports. Si vous allez là-bas, le directeur a mis hall des sports et loisirs du CETEF. Donc le grand défi, c'est le manque de moyens, le manque d'infrastructures et le manque de structure. Alors structure, on a une structure, mais il faut qu'on organise mieux notre structure. Il y a le manque de matériel didactique et de matériel de travail.
Mm-hmm.
Vous savez, une raquette de joueurs de l'équipe nationale aujourd'hui coûte pas moins de 100 000 francs.
100 000 francs, oui.
Il y a le bois seul qui coûte 20 à 30 000 et les deux revêtements coûtent 65 à 70 000, voire 80 000.
Oui.
Vous voyez ? Et c'est des revêtements qui se détériorent au fur et à mesure que l'on joue. Chez les professionnels, ils utilisent ça une semaine, ils changent parce qu'ils ont des sponsors.
Tout à fait.
Nous, il faut quelquefois attendre que nos joueurs qui sont en France nous renvoient de vieux revêtements utilisés pour faire jouer nos joueurs. Vous voyez, il y a sept défis de financiers surtout qui bloquent l'évolution du tennis de table de golf.
Comment les aidez-vous aujourd'hui? Vu le contexte et la situation, beaucoup de jeunes ne rêvent que de s'expatrier pour pouvoir s'exprimer. On a parlé de beaucoup qui sont à l'extérieur aujourd'hui. Y a-t-il beaucoup de pongistes togolais à l'extérieur et sur lesquels la sélection nationale peut-elle s'appuyer?
Oui. Alors, moi, actuellement, moi, j'encourage mes joueurs et les joueurs togolais meilleurs à s'expatrier.
Oui.
Alors, je vais vous donner un exemple. Lors des derniers championnats ouest-africains, nous nous sommes appuyés véritablement sur nos joueurs expatriés pour être champions d'Afrique de l'Ouest.
Oui.
C'est vrai qu'ils ont tous débuté au Togo. Agbetoglo a débuté au Togo. Il a remporté le circuit mondial des moins de 12 ans. Vous voyez, Fanny Dodji, il a débuté au Togo. Oui. Actuellement, il est aux États-Unis. Et on a déniché un jeune Aboudjan Elias qui joue en France. Son papa jouait un peu avec nous quand il était à Lomé. Mmh. Donc, il y a notre compatriote Lawson Fissou qui a vu le jeune dans une compétition en France. Donc, il s'est rapproché de ses parents. Et maintenant, il est avec nous. Il est avec la sélection togolaise. Mmh. Il est pratiquement le numéro 3 ou 4 togolais actuellement. Mmh. Derrière Agbetoglo et Fanny Dodji. Mais c'est un jeune qui a 19 ans, qui a une potentialité énorme de progresser. Alors, on a d'autres. Tout à l'heure, je parlais de Alassani Soudès, qui joue en France également, de Assou Boris, mm-hmm. qui est parti bientôt. Il y a Capo Désiré qui va aussi partir dans les semaines à venir.
Oui.
On a une quinzaine de joueurs en France.
En France.
À part les anciens, comme Ananou Dodji, Salah Kofi, Lawson Fissou et autres. Mm-hmm. On avait beaucoup de joueurs en France, mais on n'avait pas les moyens de les faire revenir ici.
Oui. D'accord, vous en avez parlé. Hein. Comment se passent vos relations avec eux? Est-ce qu'il y a un suivi? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez mis en place une organisation, une méthode pour pouvoir les suivre et voir leurs performances régulièrement pour savoir s'il faut les sélectionner ou pas?
Oui, actuellement, la direction technique a mis en place une commission de suivi des athlètes évoluant à l'extérieur.
Oui.
Et cette commission nommée Suivi Diaspora est pilotée par Lawson Fissou, qui est actuellement l'entraîneur de l'élite de notre fédération. Donc, comme lui-même, il est en France, il joue toujours, mm-hmm. il est en France, c'est lui qui se charge de les regrouper. Alors, avant de participer au championnat d'Afrique de l'Ouest la dernière fois, la stratégie, c'est qu'on avait 8 joueurs qui voulaient venir participer au tournoi.
Mm-hmm.
Donc, on a fait un test de sélection à Lomé pour dégager un joueur.
Un joueur.
Un test de sélection en France pour dégager un joueur.
Mm-hmm.
Vous voyez?
Oui.
Plus Agbetoglo et Fanny Dodji. Et la fédération se réserve le droit de choisir un cinquième joueur. C'est ce qui a été fait.
C'est ce qui a été fait.
Fissou s'est occupé, l'ensemble Fissou s'est occupé d'organiser le tournoi de sélection en France.
D'accord.
Voilà. Oui. La direction technique s'est organisée à faire le tournoi de sélection à Lomé. Mm-hmm. Et après, nous, notre joueur coup de cœur, c'était Akapo Désiré, mm-hmm. qu'on a ajouté aux 5 là. Akapo Désiré, c'est actuellement l'un des meilleurs joueurs sur place, hein, avec mm-hmm. Assou Boris.
Oui, oui. En tout cas, ça a été bien fait puisque les résultats ont été au bout. Hein. Et puis, Lawson Fissou, ce n'est pas n'importe qui. Il a suffisamment mouillé le maillot pendant longtemps pour l'équipe nationale de football. Et le ping-pong, le tennis de table togolais, c'est son affaire. Alors, parmi tout cela, quels sont ceux que vous avez détectés vous-même et que vous avez formés vous-même?
Alors,
votre coup de cœur, vrai, vos coups de cœur, vrai.
C'est Assou Boris.
Assou Boris.
Et pour les nouveaux, hein, Assou Boris.
Oui, pour les nouveaux, bien sûr.
Et comment on l'appelle? Alassane Désiré.
Oui.
Et Akoussa, et comment on l'appelle? Prince.
Prince.
Mais Akoussa, avant oui. eux, il y a Lawson Fissou.
Oui, oui.
Il y a son frère Eboué. Mm-hmm. Il y a Anoumou Draké. Mm-hmm. Il y a. Plein, ils étaient plein. Mes petits frères, Messan et Nini, plein. Ouais. C'est moi qui les avais détectés, qui les avais entraînés. Oui, il y avait plein. Mais actuellement, avant, on n'avait que 4 clubs. Maintenant, on a une quinzaine de clubs armés, oui. Et sur toute l'étendue du territoire. Donc, il faut que chacun fasse de son côté.
Oui. Bini, la deuxième partie, et dans la troisième partie, on parlera de vous, l'homme qui avait été honoré tout dernièrement par les autorités togolaises, enfin, dirions-nous. Et puis, quand même, on parlera de vos traits de caractère juste après ceci. Lasson Kaka, comment vous décririez-vous en tant qu'être humain? En tout cas, nous savons que vous êtes très affable, disponible et que vous avez bon cœur, toujours prêt à rendre service, à aider. Mais vous-même, comment vous décririez-vous?
Mais je me décris avant tout comme un être très patient. Et je pense que ma patience a fait que j'ai réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses.
À traverser beaucoup de rivières tumultueuses, many rivers to cross.
Mais tu le sais très bien, pour arriver au bout, il y a beaucoup d'obstacles à franchir, beaucoup de rivières. C'est pourquoi j'ai même demandé cette chanson. Donc je me définis comme quelqu'un de très patient dans la vie, qui aime aider les gens, surtout dans le domaine sportif, le domaine que je maîtrise.
Tout à fait.
Je suis toujours prêt à aider les jeunes entraîneurs à progresser, à aider les jeunes joueurs à progresser, et voilà.
Sur le plan humain, quelles sont les actions que vous avez pensé avoir été, que vous pensez avoir été les meilleures de votre existence, aussi bien en sport que dans d'autres domaines?
Vous savez, quand on est entraîneur ou professeur d'éducation physique, vous allez forcément vous confronter à des cas, je dirais pas de misère, mais à des cas d'élèves et de joueurs nécessiteux.
Oui.
Quand vous êtes professeur d'éducation physique, forcément, vous devez vous confronter à ces cas-là. Alors, et en tant qu'être humain, en tant que professeur, en tant qu'éducateur, on est obligé d'aider les jeunes à certains moments de leur existence. Ne serait-ce que de leur donner quelque chose pour manger, parce qu'il y a certains élèves qui viennent au lycée, à l'école, qui ne mangent rien de la journée.
Oui, oui.
Ce n'est que le soir, peut-être en rentrant, qu'ils mangent quelque chose.
Oui.
De même, dans le sport, vous avez des joueurs qui n'ont vraiment rien, mais qui sont talentueux.
Oui.
Hein? Si vous laissez ces joueurs-là, ce sera une perte de talent. Donc, il faut forcément les aider, ne serait-ce que sur le plan matériel. Leur trouver des raquettes, leur faire ça. Ou bien, on va même jusqu'à leur établir leur acte de naissance, voire leur passeport, pour qu'ils puissent voyager.
Oui, oui.
Il y a des joueurs dont les parents ne peuvent même pas leur faire établir un passeport, un acte de naissance.
Mmh.
Donc, à ces moments-là, on est obligé, en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, de vraiment porter un coup de main à nos jeunes.
Absolument, puisque nous-mêmes, avant de devenir vous-même encadreur, il y a eu quelque part quelqu'un qui vous a tendu aussi la main.
Tout à fait.
Donc, c'est un retour normal des choses.
Tout à fait. C'est un retour normal des choses. Oui. Dans ma vie de sportif, j'ai eu à côtoyer certains, pas collègues, mais certains sportifs de haut niveau. On était très amis, on faisait nos 400 coups ensemble, mais on se donnait de bons conseils.
Oui.
Je sais qu'on va arriver à ce truc-là, mais bon,
oui,
voilà.
C'est vrai.
J'attends pour qu'on en arrive.
C'est vrai, mais c'est pas loin. Hein. Effectivement, en dehors de Yaka, pas mal d'autres personnes vous ont marqué, notamment Alberto Simon de Fanti, votre coéquipier, votre frère, malheureusement disparu aujourd'hui. Parle-nous un peu de cette relation particulière que vous aviez avec lui, que ce soit au handball ou au tennis de table. Parce que même à la finale, hein, vous avez été vice-champion d'Afrique.
Ouais.
C'était avec lui, vous étiez avec lui, il était dans l'équipe sur la photo, je crois.
Il était dans l'équipe, non seulement il était là, dans l'équipe, mais il a été le meilleur joueur de ce tournoi, de ce championnat africain.
De tennis de table.
Hein?
De handball.
Non, l'histoire, c'est que Alberto faisait partie de l'équipe qui a été vice-championne d'Afrique de tennis de table.
C'est de ça que je parlais, oui. Vous étiez là avec lui.
Et
puis après, au handball, oui, ça c'est normal.
Au handball aussi, l'équipe de la Sosa, nous Sosa, on était des aiglons.
Oui,
mais on
faisait une sélection à l'époque, oui, pour renforcer
donc,
la Sosa.
Alberto faisait partie de l'équipe de la Sosa qui était aussi vice-championne d'Afrique de la première Coupe d'Afrique,
des clubs champions de handball, oui.
Donc, forcément, entre Alberto et moi, il y avait une très grande complicité. Alors, tout ce que je... Quand j'ouvre la bouche, ce que je vais dire, Alberto sait à demi-mot ce qui va sortir de ma bouche. Il y avait tellement de complicité dans le jeu. Je sais où le trouver. Il sait où me trouver. Et en tennis de table, c'était Ananou, mon partenaire. Mais quand Ananou est parti en France, je ne peux pas faire équipe avec autre personne que Luc Alberto. Tellement on s'entendait. Il est très patient comme moi. Il ne reprochait jamais à l'adversaire qui fait une faute. Même si la faute est bête, il t'encourage. Tu vois? Même en handball, vous voyez comment
on se souvient qu'on l'a mal tirisé ici sur le goudron. Là.
Jamais rien.
Il ne parlait jamais.
Donc forcément, c'était un joueur talentueux. Tant en tennis de table qu'en handball. C'était un phénomène.
Oui.
C'était un phénomène. Il était aussi très, très bon footballeur.
Oui.
Il était très bon footballeur.
Je me souviens de ses dribbles au petit poteau.
Oui, oui.
Paix à son âme et qu'il repose en paix. L'autre personnalité ou acteur marquant du tennis de table, c'est De Plano. De son surnom, lui aussi a énormément compté dans votre évolution, dans votre carrière.
Alors, on parlait tout à l'heure de comment aider les jeunes. De Plano, c'est l'homme qui aidait les jeunes.
Oui.
Alors, nous, on était friands des glaces après les entraînements. Et après chaque entraînement autour de 17h, il nous amenait à Togo Glace ou quelque chose, près de Togo Surprise là-bas.
Oui, oui.
Monoglace ou quelque chose. Donc, il nous amenait. Il y avait sa fille Odile aussi qui faisait partie de l'équipe.
Oui.
Donc, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a pesé lourd dans ma formation sur le plan physique. Vous voyez,
oui.
Il était ancien militaire. Revenu de France, donc sur le plan, il ne tergiversait ça pas sur la préparation physique. Alors, quand il préparait sa fille physiquement, j'étais là et on travaillait ensemble. Alors, non seulement il a pesé sur ma carrière sur le plan sportif, mais sur le plan humain, comme je disais, il fait partie des gens, des grandes personnes qui m'aidaient beaucoup dans le temps aussi.
Mmh. Enfin, il y a un dernier, Lassé Sipili, aussi rapidement un mot sur lui.
Oui, Lassé Sipili, je disais tout à l'heure que c'est l'un de mes mentors en sport. Alors, je l'ai rencontré quand j'étais allé au tennis de table, il était, disons, le champion du Togo.
Mm-hmm.
Il y avait un certain Collé Ansel, Lassé Sipili, pas mal lui-même, et Tamerclé Georges, et Blackson Folly. Ils étaient les meilleurs.
Mm-hmm.
Alors, Sipili m'avait pris sous sa coupe. Il y a pas mal, bien sûr. Mais Sipili, on était dans le même quartier, il m'avait pris sur sa coupe. C'était le tout premier à faire des top spins au Togo. Alors, il me montrait comment on fait les top spins. Mais après, c'est moi qui lui montrais après comment le faire très bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a pesé dans ma carrière aussi. Alors, on était ensemble en Chine en 1971. Et dans l'avion, quand on rentrait de Chine, il me disait, écoute Kaka, je vais te faire découvrir le handball. Je dis, c'est vrai? Il dit, oui. Quand on sera à Lomé, je vais t'amener dans mon club, les Cuirias. Et deux jours après notre retour de Pékin, il est venu chez moi. Il m'a pris, on a couru de notre maison jusqu'à Beniglato. Alors, l'anecdote, c'est que sans m'entraîner, au bout de, j'ai regardé pendant une minute de temps, j'ai vu comment jouer, il m'a mis dans l'équipe en tant qu'ailier. Alors, j'ai vu les gens faire, j'ai vu que quand on prend la balle, on saute, on tire. Donc, j'ai pris la balle à l'aile, j'ai sauté, j'ai tiré. C'était une dame qui était dans les buts. Et la dame avait facilement capté le tir. Mais il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi. Bon, je dis, bon, on va voir. J'ai eu une seconde balle. Alors, comme je ne voulais plus que la dame se moque de moi, j'ai tiré très fort, mais la dame a pris la balle dans le visage.
Wow.
Et elle est tombée. Elle dit, mais comment tu peux lancer à une dame comme ça? Je dis, mais j'ai lancé, vous vous êtes moqué de moi. Mais voilà comment je suis arrivé au handball par la Cécipili. Alors, et il m'a beaucoup aidé sur le plan, même sur le plan de l'entraînement. Vous savez que je suis professeur de sport option handball.
Oui.
Moi, j'ai représenté le Togo dans trois disciplines différentes. Le tennis de table, le handball et le tennis.
Le lawn tennis.
Mm-hmm. Donc, vous voyez, la Cécipili, c'est vraiment...
Bon. Finalement, a été reconnu tout dernièrement par le goût du tennis de table, tout dernièrement.
Une immense satisfaction pour moi. Hein? Mais c'était vraiment... Ça m'a fait vraiment plaisir. Et... Pendant mon discours de réception du trophée,
oui,
je n'ai pas manqué de faire allusion à ceux avec qui j'ai eu ce succès.
Cheminé.
Notamment Dalmeida Odile, Anan Doudi et Alberto, oui, et son frère Filippo et mon petit frère Messan. Mm-hmm. Alors, la plus grande moisson que le tennis de table ait faite, c'est en 1978 aux Jeux africains d'Alger. Alors, le Togo, au total, avait 8 médailles et le tennis de table avait 7 des 8 médailles, dont une médaille d'or et une médaille de bronze. Mm-hmm. Alors, c'était avec ces gens que j'ai cités, oui, qu'on a eu toutes ces médailles-là. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas manqué, pendant mon discours, de citer, et j'ai dit que cette reconnaissance va à l'ensemble de ce groupe-là.
De ce groupe-là.
Vous voyez ?
Effectivement.
Mais, c'est vrai que j'étais presque aux larmes, hein, quand je faisais mon discours.
Il y avait beaucoup d'émotions, effectivement. D'émotions. Beaucoup d'émotions.
Oui.
Les perspectives, la quatrième partie. Donc, nous avons encore 3 minutes pour aborder cette quatrième partie. Quels sont vos objectifs au niveau de la direction technique? Vous en avez parlé tout à l'heure, hein, le projet de refaire une détection organisée dans les établissements scolaires. Vous nous avez parlé également de vos anecdotes, hein, depuis que vous êtes dans le tennis. On en a eu aussi à chaque moment. Et maintenant, comment voyez-vous l'avenir du tennis de table togolais?
Avant de parler de ça, je voulais revenir un peu sur certains sportifs qui ont marqué ma carrière.
Ok.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Alberto.
Oui.
Je voudrais ici parler de certains amis sportifs. Avec qui on faisait tout. Et Zoti Roland,
oui,
tu le connais très bien.
Son âme, oui,
Gabi Amedo.
Il est toujours là, oui, Gabi Amedo.
Gabi Ameko.
Eko aussi.
Alors,
oui,
l'histoire avec Eko, c'est qu'on s'est connu quand on avait 4 ans, mm-hmm, au clos d'enfants, à la maternelle.
Oui.
Et c'est une amitié de 65 ans qui,
oui,
dure jusqu'à,
aujourd'hui. Oui.
Alors, on s'est rencontrés quand Cipili m'avait amené au Cuirias. On m'a mis dans l'équipe réserve. Il y a les championnats A et championnat équipe réserve. Donc, moi, j'étais... j'ai oublié Aguia Jojo.
Oui, Jojo. Ah oui, c'est les trois. Vous aviez la même morphologie, le même jeu.
Tout à fait.
Tout était...
Donc,
c'est vrai.
Et Jojo et moi, on était au lycée de Tocoin. Oui. On savait qu'on faisait partie des Cuirias. Lors du match du week-end, on était là, on mettait les maillots
ensemble.
Et Eko était venu avec Jacques, son frère, et Cosme d'Almeida.
Oui.
Et Cosme demandait à ce qu'on réserve un maillot à Eko. Au détriment d'un autre joueur qui s'est entraîné avec nous.
Avec vous.
Moi, je joue, moi, on s'est dit non. On ne connaît pas ce joueur-là. Moi, je connais bien Eko, mais pas en tant que handballeur.
C'est vrai.
Je dis non, quelqu'un qui s'entraîne avec nous toute la semaine, on le... Eko se dit non, il est très fort, il est très fort, il joue à Kévé. Je dis, mais Kévé, qu'est-ce qu'il y a à Kévé? Donc, c'est comme ça que quand on a mis le maillot à Eko, Alberto n'était pas encore là, mm-hmm. quand il a pris le maillot, on s'est vu former un trio avec Jojo, Eko et moi, qui avait très fait mal à nos adversaires en ce moment-là. Vous voyez, c'est comme ça que nous avons retrouvé notre amitié qu'on avait commencé à l'école maternelle. Alors, Edo, non seulement on partageait nos passions du tennis de table, on jouait au même poste, en équipe nationale, au poste de pivot. Il y avait Alberto, il y avait Edo, il y avait moi, il y avait Zarate,
oui,
d'Almeida.
D'Almeida.
Ouais. Donc, non seulement on partageait notre passion du handball, mais également, c'est quelqu'un de très méticuleux. On partageait aussi une passion pour les études. Edo venait me cogner à mon mur à 4 heures du matin. On allait... Et au centre culturel américain, à la plage là-bas, étudier avant d'aller au lycée ou au collège à 7 heures. Ouais, et ça, tous les matins.
Tous les matins.
Donc, ce qui fait que, après le sport, on est resté dans la vie très, 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 très unis. D'ailleurs, c'était lui le témoin de mon mariage.
Absolument.
Lui et son épouse. Vous voyez, je tiens à rendre hommage à ces amis-là qui étaient à mes côtés, qui m'encourageaient. Il y avait une rivalité de poste entre nous, mais jamais d'animosité.
Absolument.
Vous voyez? Alors, Roland Sotti, pour moi, c'est l'un des meilleurs basketteurs togolais.
Oui,
c'était un stratège. Tu
il
vois,
maniait très bien la balle.
Tu vois.
Oui.
Donc, voilà. Bon, maintenant, quelle est la question?
La question, c'était comment voyez-vous l'avenir du tennis de table togolais?
Oui. Alors... Je vois un peu l'avenir à la fois mitigé et en rose. Si on arrive à remettre en place une structure de détection, si la fédération arrive à trouver les moyens de nous donner pour faire cette politique-là, je crois qu'on aura le tennis de table. Nous n'avons pas totalement perdu, hein. Nous avons perdu un temps. Et on a perdu du chemin en temps, mais on a retrouvé du chemin maintenant.
Du chemin, oui.
Avec la détection qu'on avait faite
il y a 15 ans.
Et qui porte ses fruits actuellement.
Oui.
Donc on peut refaire une détection maintenant et dans 10 ans...
Récolter les fruits.
Donc si la fédération met les moyens, je ne vais pas dire la fédération, si le ministère met à notre disposition les moyens, ne serait-ce qu'un dixième ou un centième de ce qu'ils mettent à disposition des footballeurs.
Oui.
C'est un coup de gueule. Hein. Nous sommes tous
des Togolais, des Togolais sportifs.
Internationaux, Togolais.
Oui.
Nous jouons tous la Coupe d'Afrique des Nations dans nos disciplines.
Absolument.
Nous trimons à trouver des fonds pour aller à une compétition. Quand bien même on soit qualifié.
Oui.
Alors, nous n'avions pas pu participer au dernier championnat, à l'avant-dernier championnat à Alger. Ce qui nous a valu notre place sur le podium, tout simplement parce qu'on n'était plus tête de série.
Oui.
Vous voyez, la conséquence de rater une compétition d'importance. Il y a le Nigeria et l'Égypte, les deux là et les autres. Pour la troisième, quatrième place, il y a le Togo, la Tunisie, la RDC, le Congo, le Ghana. Et le Maroc, l'Afrique du Sud, tous ces pays-là qui vont lutter pour deux places sur le podium.
Oui.
Et nous, on arrive quand même à
vous hisser sur le podium. Oui.
Ouais. Au dernier championnat en Tunisie, on était cinquième.
Oui.
Si on était tête de série, on ne serait pas cinquième peut-être. Vous voyez ? Alors, nous sommes tous des Togolais, des sportifs, disons de niveau quelconque. Nous sommes susceptibles
de rapporter des récompenses, oui.
Je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais je crois qu'on a plus de chances de remporter une médaille, de monter sur un podium africain que le football.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ne serait-ce qu'un minimum de soutien.
Oui.
Les footballeurs ont des primes de match. Même s'ils font
même
match,
des primes de campement.
Même des primes de campement.
Oui.
Nous, on n'a même plus l'occasion d'être campé.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
Alors, on est déjà sur le dernier mot.
Oui, on arrive au mot de la fin. Alors. on a une autre question aussi. Okay. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Togolais qui aspirent à faire carrière dans le tennis de table professionnel?
Alors, c'est d'abord et avant tout le travail.
Le travail.
Alors, je disais à un de mes jeunes, et à Koussa Prince la dernière fois, que il ne faut pas se contenter du travail avec les entraîneurs. C'est le travail personnel. C'est la discipline personnelle. C'est l'hygiène de vie personnelle qui fait le champion. L'entraîneur, lui, vient, vous êtes 4 ou 5, une dizaine, il vous entraîne, vous repartez tous. Mais après, il y a quoi? C'est le travail personnel. De la même façon que Edo Gabien venait me réveiller, c'est de la même façon que Ananou venait taper à ma porte, on allait courir à la plage les matins avant d'aller au cours.
C'est ça.
Vous voyez, le travail personnel. Vous avez tout, actuellement, vous avez tout le monde a des balles chez lui, de bonnes raquettes, mais moi, je m'entraînais tout seul, ne serait-ce que pour faire des services.
Oui.
Je disais à un de mes amis de me lancer la balle à la main et moi, je répétais les coups. Le travail.
Lawson Kaka, merci. Avant de vous laisser partir, le mot de la fin.
Alors, le mot de la fin, c'est... Je me demande comment nous, on a pu faire pour aller très, très, très haut, et que les jeunes aujourd'hui peinent à le faire. Mais moi, ma solution, c'est les hommes. Je voulais ici rendre un hommage à un monsieur, un ministre des Sports maintenant.
Vous voulez Fititi.
Vous savez, c'est quelqu'un qui aimait vraiment les sportifs.
Oui.
Nous, quand je dis nous, c'est Alberto, moi, Eko, Edo, et Roland et Abel. On avait accès facile au ministère. Quand le ministre nous voit, il nous reçoit. Parce que c'est à sa demande. Si vous avez des problèmes, on profitait pour... Mais un jour, on était allé chez lui. J'étais avec, je crois, Edo et Akako Kassa ou quelqu'un d'autre.
Oui, oui.
Alors, il me demandait, mais Kaka, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous deveniez champion d'Afrique?
On veut une salle.
J'ai dit, on veut une salle. Mais j'ai dit qu'on va qui nous envoie en stage en Chine.
En Chine aussi.
Il a dit, non. Je peux vous envoyer en Chine. Je vais faire venir des entraîneurs chinois. Vous vous rappelez, dans les années 70, chaque discipline avait un entraîneur expatrié. Et ça avait commencé par nous.
On avait un Yougoslave, après un Roumain.
Oui. Au handball, on avait un Roumain.
Roumain.
Nous, on avait un Chinois. Tu dis, mais avec le recul, je me dis que mais ce monsieur est un visionnaire. Si nous avait envoyé en Chine, on serait peut-être une dizaine à profiter des Chinois. Alors que quand l'entraîneur chinois est venu, ils ont fait 3 ou 4 ans au Togo.
Oui.
Vous avez vu le boom du tennis de table.
C'est vrai.
J'aimerais rendre hommage vraiment à ce monsieur qui croyait en nous, qui croyait au sport togolais.
Et qui voulait que vous soyez champion d'Afrique, surtout.
Ah oui.
C'est ça, la volonté.
Il a vu, et quand on était
la
revenu,
volonté politique
avec
dont on parle,
une médaille d'or des Jeux africains, il a pleuré.
Tout à fait.
Oui, c'est... Les autorités, les ministres actuels, ils font de leur mieux.
Oui.
Vraiment. Mais il faut dire que le temps, là aussi, était favorable.
Absolument.
Hein? Le temps était favorable pour faire de grandes choses. Mais vraiment, on était vraiment bien. On était vraiment, vraiment bien. On ne ratait aucune compétition.
Aucune compétition, oui. On était campés, hein, et puis on se battait rien que pour aller au campement.
Regardez même les compétitions universitaires.
Oui, c'était terrible. Hein.
Vous voyez Les championnats scolaires. C'est vrai qu'il y a tellement, tellement d'écoles, de collèges maintenant
que c'est difficile.
Il faut le faire autrement.
Oui, il faut le faire autrement.
Ne serait-ce qu'organiser ça sous forme de festival.
Absolument.
Voilà, c'était.
Voilà. Merci beaucoup, Lawson Kaka. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la web radio à Revie Info. C'est la première fois que vous venez nous rendre visite. J'espère que vous avez apprécié. Partie technique, Miss Darlix. Je suis Tony D. À très bientôt. Au revoir.